Ce 12 décembre marque le 10e anniversaire de la mort de Norbert Auerbach, l'occasion pour Radio Prague International de rediffuser un extrait de l'entretien accordé en 2006 par cet homme au parcours hors du commun. Fils d'un producteur de cinéma de l'âge d'or de Barrandov, devenu lui-même président de United Artists après avoir combattu les nazis sous l'uniforme américain, Norbert Auerbach a également été aux premières loges pour assister à la révolution de velours en 1989. Quelques mois plus tôt, il était rentré à Prague au chevet d'un de ses amis d'enfance gravement malade. Alexis Rosenzweig l'a rencontré en 2006 donc.
Chapitre de l'histoire.
Dans l'été 89, je suis venu à Prague seulement pour... Je n'avais pas l'intention de rester à ce moment-là. Et la révolution s'est passée d'ailleurs très, 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 très tranquillement. Même que moi, je dis aux Tchèques qu'ils n'avaient pas une révolution, mais une évolution à part de quelques incidents qui était grave, mais qui n'était pas très grave. Ça s'est passé très calmement. J'ai passé une grande partie de mon temps, si vous voulez parler directement, mêlé de cette évolution, révolution, en voyageant entre la France et la Tchécoslovaquie. J'ai fait imprimer les étiquettes qu'il y avait le petit homme, bonhomme qui riait pour le Občanské Forum.
C'était le logo qui ressemble à un smiley, on pourrait dire.
Forum. Le logo était imprimé à Nice.
À vos frais?
À mes frais. Et je portais ça et je livrais ça à la Občanské Forum parce qu'ils n'avaient pas les moyens techniques ni l'argent de fabriquer ça d'une manière correcte comme c'était fait. En plus, j'amenais de la couleur pour les machines Xerox pour qu'ils puissent
pour le photocopieur.
Et ça au fond, c'était l'activité où j'ai assisté, si vous voulez, directement. Et je me rencontrais avec les gens du Občanské Forum, mais il n'y avait pas grand chose à voir. C'était pas à ma place. Un revenu qui était regardé quand même un peu avec pas beaucoup de sympathie, voilà, que les gens disaient maintenant qu'on est tout d'un coup libre, vous venez nous aider, vous nous voir, où est-ce que vous étiez pendant les temps difficiles, donc il fallait rester discret. Après la révolution, plus tard, j'ai naturellement rencontré Havel et beaucoup de gens de la ODS, mais je ne suis pas un homme qui s'intéresse beaucoup à la politique. Et les hommes politiques, pour moi, sont aussi non sympathiques que les acteurs et actrices. Parce qu'ils sont faux, ils font des promesses qu'ils ne tiennent pas, ils disent ce qui leur plaît au moment où on leur parle, et c'est oublié, ils oublient au fond, en République tchèque, et partout dans le monde, très souvent, une grande partie des hommes politiques oublient qu'ils sont des serviteurs du peuple et pour le bien du peuple, pas pour leur bénéfice propre.
Vous parliez de la difficulté pour les exilés revenus. Beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui ont essayé de revenir ou qui sont revenus, m'ont dit que le retour d'exil était particulièrement difficile à Prague. Alors, vous êtes ici depuis plus d'une dizaine d'années. Est-ce que vous, ça a été le cas pour vous aussi?
Oui, mais comme je disais, j'ai rencontré plusieurs fois, et je rencontre toujours encore, une attitude où on dit « qu'est-ce que tu nous racontes ?» Tu étais en Amérique, tu étais en France, quand nous, on souffrait sous le communisme. Et c'est un peu, très souvent, je trouve que c'est un mécanisme défensif, parce que au fond, les gens, beaucoup de gens ne souffraient pas. Ils venaient une vie assez normale. Bon, il n'y avait pas cette grande liberté avec un L capital, mais ils avaient à manger, ils avaient à habité, ils avaient un travail. Et c'est un peu comme en Allemagne pendant la guerre, quand on libérait les Allemands, quand on venait en Allemagne et on rencontrait les Allemands, il y avait pas de nazis. Donc maintenant en République tchèque ou en Tchécoslovaquie, personne n'était communiste, et si on était communiste, c'est parce qu'absolument on était forcé. Donc il y a beaucoup de faux là-dedans.
Et combien est-ce que vous avez de passeports aujourd'hui?
Moi, j'ai seulement deux passeports. J'ai un passeport tchèque et un passeport américain. Et le passeport tchèque est presque un accident, parce que j'avais même pas demandé le passeport tchèque, mais sous une loi qui a été passée, ou un décret qui a été passé, les Tchécoslovaques, enfin les gens de nationalité tchécoslovaque, qui avaient acquis une autre nationalité pendant le temps que la Tchécoslovaquie étaient en état de guerre avec l'Allemagne, ne perdaient pas leur nationalité tchécoslovaque. C'est comme ça que moi, j'avais jamais perdu la nationalité tchécoslovaque qui m'est restée.
Vous avez quatre fils avec deux épouses différentes. Est-ce qu'ils parlent tchèque?
Non, ils ne parlent pas du tout. Ils parlent... les deux avec ma femme qui était autrichienne, leur première langue était le français. Donc ils parlent français parce qu'ils étaient tous les deux nés à Paris. Et les deux autres, avec la femme américaine, sont nés à Londres. Ils parlent seulement anglais, tandis que le Lederhosen Gang, comme je les appelle, naturellement parle allemand et anglais.
Pour terminer, on peut dire que si vous parlez aussi bien le français aujourd'hui, c'est peut-être d'abord parce que vous avez acquis les bases au lycée français de Prague.
Absolument. Bon, comme je l'explique un peu, mon père, qui ne parlait aucune langue, voyait déjà à ce moment-là, ce qui était assez surprenant, c'est exceptionnel à ce moment-là, la nécessité de parler des langues. Donc nous, comme enfants, nous étions au lycée français. Ma sœur est née au lycée allemand, mais on était élevés avec tchèque, allemand, français, anglais. Et après, italien, espagnol, portugais, etc., etc. Les quatre premières langues sont les plus difficiles. Après, ça marche tout seul.
Est-ce que vous gardez une certaine nostalgie de cette époque, de la Prague, de la Première République tchécoslovaque?
Non, c'était tout à fait un autre temps, un autre âge. Oui... Je me rends compte maintenant qu'on vivait dans une vie extrêmement luxueuse, qui n'a plus jamais été répliquée, malgré que mon père avait du succès aux États-Unis. Mais c'est des souvenirs que j'exagère probablement dans ma tête. Et comme je dis, on ne se rendait pas compte, donc je ne peux pas dire que ça manque ou que j'y pense avec regret.